Les nuits, le jour. Alban Penaranda, Mathias Le Gargasson, Antoine Dulster, Thomas Jost, Hassan Mbechour. Les nuits, le jour. Notre visite dominicale dans les archives de l'INA.
Les nuits de France Culture.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, un avant-goût du programme d'archives que nous consacrerons samedi prochain à quelques légendes étoilées de la cuisine. Tout de suite, Alain Ducasse, au micro de Isabelle Rabineau, dans Les Feux de la Rampe, le 8 août 1997.
Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Alain Ducasse est une légende de la cuisine mondiale. Il est, en 2023, le chef le plus étoilé au monde, accumulant 20 étoiles à travers ses divers établissements. Un succès qui lui vaut d'ailleurs de vives critiques. Car comment peut-on encore prétendre être un chef cuisinier quand on possède 33 restaurants aux quatre coins du monde? Passant son temps dans les avions à voyager d'un continent à un autre, Alain Ducasse n'a effectivement pas le don d'ubiquité. Les cuisines de ses restaurants sont laissées aux mains de chefs de confiance. Ducasse n'étant souvent que de passage. Ses reproches ne datent pas d'hier. Alain Ducasse dérange dans le monde de la cuisine, de par l'empire économique qu'il a bâti, l'image savamment construite qui est omniprésente dans les médias, et son absence derrière les fourneaux. Pourtant, personne ne peut contester son talent de cuisinier. Passé chez Michel Guérard ou encore Alain Chapelle, il obtient à 33 ans seulement sa troisième étoile pour le restaurant Palace le Louis XV à Monaco. Depuis, il a repris la chaîne Château et Hôtel de France, s'occupant de plus de 500 établissements de prestige. Il a aussi ouvert des écoles de cuisine à Paris ou encore à Bangkok, une chocolaterie, une péniche avec vue sur la Tour Eiffel, bref, une diversification de son portfolio qui rendrait jaloux les entrepreneurs les plus aguerris. Dans ce numéro des Feux de la Rampe de 1997, c'est un Alain Ducasse en pleine ascension qui s'exprime et se confie au micro d'Isabelle Rabineau. Il parle de son instinct de cuisinier, de son goût de la vitesse et de l'efficacité, répond aussi, non sans malice, aux critiques qui lui sont faites dans le milieu de la gastronomie. Bien plus qu'un grand cuisinier, c'est un redoutable businessman qui n'a jamais perdu de vue la qualité et l'amour de la nourriture qui se dévoile dans cette émission diffusée pour la première fois le 8 août 1997.
Quand il s'arrête, oh, ce cheval en mouvement, de la main ou ralentir, ralentir son mouvement, demi-art en A, arrête, oh, arrête le cheval. Tant quand il s'arrête, ce cheval, oh, ralentir. Quand il s'arrête, ce cheval, mouvement, demi-art en arrête, arrête, ralentir de la main, oh, ralentir.
Les Feux de la Rampe, Isabelle Rabineau, Lionel Quentin, bonjour à tous.
Si vous bougez, non. Si vous bougez de là, attention, ne bougez pas, non. Pause, c'est fini, c'est fini. Quand il s'arrête, ce cheval, mouvement, ralentir, stop. Ainsi, ralentir, ralentir.
Aujourd'hui, les Feux de la Rampe sont braqués sur Alain Ducasse. Toc étoilé, 5 étoiles, on vous appelle le roi du Michelin 97.
Pour moi, qui fait ce métier aujourd'hui, mon passé à la campagne a été essentiel. J'ai fait mon apprentissage dès que j'ai commencé à manger un morceau de tomate jusqu'à ce que je rentre dans la vie professionnelle. C'est-à-dire, j'ai 20 ans d'apprentissage informel, sans avoir eu besoin d'aller chercher l'éducation. Je l'avais tout autour de moi, puisqu'il y avait le jardin, il y avait des poules, des lapins, du bœuf, du lait, on faisait des fromages, on faisait tout, on faisait absolument tout. Mon grand-père était forgeron et et charpentier en même temps, donc j'ai vu ce qu'on faisait avec un morceau de bois, enfin j'ai vu tout ça, et je crois que ça me permet aujourd'hui de garder des racines fortement terriennes, bien que je fasse quelque chose de très différent aujourd'hui, mais je pense que c'est une de mes bases fortes, c'est mes origines.
Alain Ducasse, la voix, c'est étrange de s'écouter. Hein ?
Ah oui, je ne m'y attendais pas du tout.
Vous êtes un professionnel de la bouche, mais la bouche, bien sûr, c'est aussi la voix.
Hein ? Tout à fait, mais je me souviens bien de cette interview qui devait avoir lieu
à la Bastide
de Moustier, dans la campagne provençale.
Alors, la Bastide de Moustier, c'est un endroit, justement, que vous avez, célébré, enfin, que vous-même, vous avez construit, il y a quelques années.
Oui, il y a 3 ans, c'est un peu un refuge, car dans une vie mouvementée, on a quelquefois besoin de se retrouver, d'avoir des racines fortes, et c'est un peu quelque chose qui ressemble à ce que j'avais dans le Sud-Ouest quand j'étais enfant. Et puis finalement, on a décidé d'y accueillir des clients et on est très peu hôtel-restaurant, on est resté une maison d'abord et c'est ce que je voulais faire.
Une maison avec un potager, c'est un petit peu comme la radio aujourd'hui au studio 117, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de carte, rien n'est écrit, tout est le plaisir de l'instant et on cuisine selon ce qu'on trouve dans le potager le jour où les gens viennent, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est essentiellement une cuisine faite des légumes qui viennent du jardin et ensuite une viande rôtie ou cuite à la broche ou on la peint dans une cocotte noire. Donc effectivement, il n'y a pas de choix. Alors ça peut choquer parce que des fois, certains de mes clients se retrouvent dans mon auberge à campagne, se disent mais comment, il n'y a pas tout le luxe qu'on peut trouver ou à Monaco ou à Paris. Donc ils sont un peu désemparés. Mais après, quand on a compris le code d'utilisation, on se plaît beaucoup dans cet endroit.
Alors je sais que vous avez une maxime, Alain Ducasse, c'est savoir-faire et puis faire savoir.
Et puis faire-faire, parce que si je suis là aujourd'hui avec vous, c'est parce qu'il y a plein de gens qui font ce que j'aurais appris et qui le font très bien et qui le font certainement mieux que moi je pourrais le faire aujourd'hui puisqu'ils ont répété le geste de nombreuses fois et beaucoup plus souvent que je peux le faire aujourd'hui.
Alors pour certains quand même, le faire savoir est peut-être un petit peu de trop. Déjà le faire-faire, c'est beaucoup demandé, mais alors en plus le faire savoir, souvent on dit Alain Ducasse quand même aime beaucoup les médias, il est jamais là et vous dites c'est meilleur quand je suis pas là.
Il faut faire savoir car je pense que notre métier a besoin qu'on en parle et ça participe au développement des restaurants et ça participe au développement de la cuisine française partout et ça sert aussi aux petits restaurants, aux grands restaurants, ça sert à tout le monde que l'on parle de la cuisine. Il faudrait qu'on parle de la même manière des bouchers, des charcutiers, des pâtissiers. Je pense qu'on est la profession la plus médiatisée mais plein de professions auraient autant besoin que nous qu'on parle d'eux.
Médiatisée dans le bon sens ? Dans
oui,
le mauvais
sûr,
sens,
bien
oui.
Bien sûr, dans le bon sens, quoi qu'il en soit, c'est toujours et très souvent dans le bon sens. Il faut qu'on parle d'une profession et ainsi elle s'élèvera encore plus.
Alors, c'est-à-dire, si c'est dans le bon sens, c'est que c'est votre cuisine qui est médiatisée et à juste titre, ou alors c'est vous aussi et vous aimez bien, qu'on montre votre
portrait. Derrière la cuisine, à un certain niveau, il y a quelqu'un qui fait passer sa sensibilité. La cuisine, c'est le reflet de la personne très souvent. Donc, moi, je fais une cuisine de goût clair et net. Je dis que la cuisine, ça va être quelque chose d'audible, compréhensible par tous. Donc, il n'est pas question de faire une palette complexe où personne n'y comprendra rien. Je crois qu'il faut que chaque produit conserve sa saveur originelle. Et puis, l'amalgame et l'assemblage doit être évidemment simple et clair.
Vous avez dit personne n'y comprendra rien. Ça veut dire que c'est une sorte de langage qui doit être immédiatement assimilé.
On doit pouvoir se faire plaisir. N'importe qui mangeant un plat dans un de mes restaurants doit avoir un plaisir instantané, même s'il n'a pas la culture une culture particulièrement développée, même si c'est un Américain qui mange pour la première fois quelque chose qui va lui sembler bon, il faut qu'il apprécie à sa mesure, mais il faut qu'il apprécie clairement.
On dit que vous êtes l'un des plus grands chefs du monde. On vous classe parmi les 10 premiers. Alors Alain Ducasse, je suis obligée de vous poser la question. Vous êtes célèbre ?
Non, pas du tout. Non. Je pense que c'est plutôt la notoriété, non pas la célébrité. La célébrité, c'est bien autre chose. Et je ne recherche absolument pas la célébrité, mais simplement la notoriété qu'on ne recherche pas. On n'a pas décidé un jour d'avoir de la notoriété. C'est à force de travail et de travail, encore de travail. Et puis je crois que la notoriété, c'est d'abord 95% de travail, peut-être 5% de talent, et encore.
Alors ce travail a commencé il y a bien longtemps, hein. Vous avez parlé de cette ferme qui a été le lieu de votre adolescence, je crois,
oui,
de votre enfance.
J'ai décidé à 12 ans d'être cuisinier parce que peut-être que j'étais entouré de plein de produits. Il y avait le jardin, la ferme, le grand-père, la grand-mère qui cuisinait le dimanche. J'ai gravé dans ma mémoire des souvenirs d'odeurs très précis et des fois je me dis tiens, ça a l'odeur de ce que je sentais quand j'avais 12 ans, c'est-à-dire il y a fort longtemps.
Un grand-père menuisier,
Oui, menuisier, charpentier, forgeron, on allait chercher les champignons. Enfin, il y avait autour de nous que des choses d'une très grande qualité. D'abord parce que la région le permettait, puisqu'on était dans le sud-ouest, on était dans les Landes, et il y avait une ferme, et puis tous les produits de la pêche, des rivières, de la forêt, etc. etc.
Sinon, rien de bien étonnant. Vous êtes passionné depuis 12 ans par la cuisine. Vous lisez tout ce qui concerne les grandes batailles entre les grands chefs. Comment faut-il cuisiner? Faut-il revenir au terroir ou pas? Donc vous commencez très vite par être commis en 72.
Oui.
C'était au pavillon landais, oui. À Souston.
Oui.
Voilà. Et ensuite, c'est assez classique, non? Comment ça se passe,
que... il faut s'imprégner de savoir-faire différents, et pour ça il faut aller chez des cuisiniers différents, aussi différents que ceux que j'ai fait, comme Michel Guérard, comme Alain Chapelle, Roger Verger, Gaston.
Ça c'est votre trio gagnant, hein.
Oui, bien sûr, c'était les gens dont on parlait Guérard, le plus et qui étaient très différents. Chaque fois que je suis arrivé dans une de leurs maisons, j'ai oublié ce que j'avais appris avant, car les sensibilités étaient tellement différentes, il ne restait que la trame technique comme base, mais il fallait s'imprégner d'autres choses pour un jour mixer à sa manière.
Ouais, c'est-à-dire qu'eux-mêmes vous demandaient d'oublier, non pas la technique, mais d'oublier ce que vous aviez vu
avant. Oui, parce que la sensibilité, l'expression était tellement différente d'un cuisinier à l'autre que c'était intéressant d'oublier pour pouvoir s'imprégner complètement de ce que l'on faisait dans cet endroit.
Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut bouger, mais il faut bouger parfois même avant la fin des études. Est-ce que vous avez fait à l'école hôtelière, non?
Ah, je suis parti, j'ai claqué la porte parce que ça n'allait pas assez vite, effectivement. Bon, en une journée, j'apprenais à faire un truc. Des journées de technique, c'était rien, quoi. Ça n'existait pas. Donc je suis parti apprendre vite et puis je veux aller vite.
J'ai faim.
Oui, j'ai souvent faim.
Il y a beaucoup de gens qui disent j'ai faim quand ils vous voient.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. J'ai faim, qu'est-ce que vous me feriez? Je dis, si on a un marché, il faut aller au marché. Puis on va toujours trouver quelque chose à faire pour consommer tout de suite.
Yam, 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 yam,
l'aubergine tendre et joufflue. Le melon juteux et rafraîchissant. La dorade, perche de mer. Les côtes d'agneau, petites bouchées à multiplier. L'ail frais, chemisé de blanc et lavé de mauve, il dégage un parfum plus prononcé que l'ail de garde. À la cuisson, il s'avère plus doux et particulièrement fondant. Choisissez-le bien renflé, plutôt mat. Les gousses ne doivent ni sonner creux, ni être tachées de brun.
Le cornichon, sa saison est courte. Pour les conserves, veillez à les choisir de même taille pour une unité de saveur. À l'achat, ils doivent être fermes, fins et légèrement épineux.
Nous sommes quand même drôlement constitués à l'Alain Ducasse. On entend aubergine et on a l'impression qu'on la mange quand on l'entend là dans ce...
C'est super, puis j'aime bien ce fond de bruitage, c'est très intéressant. Je ne sais pas si c'est un mixage ou si c'est quelque chose de...
C'est un mixage.
Un mixage, mais ça existe aussi en direct, il faut aller chercher.
Ça existe en direct quand vous allez au marché, quand vous allez chercher tout près, du poissonnier, certains légumes, puis c'est surtout les légumes que vous célébrez, que vous avez célébrés.
Oui, moi je suis un fou de légumes parce que je trouve qu'ils sont trop souvent négligés et trop souvent dans la cuisine française, ils ont été des garnitures et je crois qu'on peut en faire des plats et des grands plats, mais il faut leur donner beaucoup d'amour, il faut y donner beaucoup d'attention et beaucoup de temps. Mais je pense qu'un grand plat de légumes, c'est quelque chose d'inoubliable. Et puis partout à côté de chez vous, il y a un marché le samedi, le dimanche. Il faut aller choisir ce qui vous semble beau et bon, éventuellement goûter, prendre une cocotte en fonte et puis cuisiner.
Alain Ducasse, nous ne sommes pas là pour faire la psychanalyse à Katsu, bien évidemment, mais enfin, quand on voit le plaisir de l'instant que vous recherchez, cette conception un peu épiphanique du bien manger, c'est-à-dire c'est de l'amour que vous offrez aux personnes qui sont là, les 50 couverts qui sont là dans votre restaurant, sont là pour partager bien autre chose que simplement de la nourriture aussi.
C'est de l'amour, de la passion, de la sensibilité, c'est pour partager... ce qu'on veut bien leur faire partager, mais je crois qu'il faut donner beaucoup de soi-même et que chaque cuisinier qui est dans une cuisine, c'est une brigade. Une brigade, c'est composé de plein de cuisiniers. Et puis chacun va donner, quelque part, va donner la petite touche finale sur des bases techniques, sur des produits parfaits qu'on leur a donnés. Mais il y a une sensibilité qui passe dans chaque plat. Je pense que c'est ça que le consommateur doit transmettre en bout de course.
Il y a un moment biographique, justement, que je voulais rapprocher de ce succès ou de cette renommée dont vous parlez aujourd'hui, qui vous oblige à prendre vos billets d'avion. J'ai lu ça quelque part dans la presse. Stéphanie va peut-être nous en parler. Je crois trois ans à l'avance.
Non, mais il n'y a pas de performance à ce que je fais. C'est pas si loin, je pense que.
Il y a pas de performance de billets d'avion, mais par contre, vous êtes arrivé une histoire avec un avion il y a quelques années, en 84.
Oui.
C'est-à-dire un accident.
Oui.
Vous êtes le seul rescapé.
Oui.
Voilà. Donc là, il y a un moment peut-être où la vie prend ensuite un autre sens.
Mais un jour, il faut décider que la vie reprend le dessus sur ce qu'on a vécu. Mmh. Il faut tourner la page et puis repartir, recommencer encore plus, avec encore plus de motivation et puis avoir envie de découvrir toujours plus et encore plus. Et c'est pour ça que je suis peut-être encore plus curieux, parce qu'un jour, j'ai failli ne plus pouvoir être curieux du tout.
Ouais. C'est une question simple, mais peut-être qu'elle est plus complexe que ça, quand on se la pose réellement. Est-ce que vous avez fait la cuisine autrement, après ?
Ah non, j'ai vu la vie autrement. Bien sûr, la cuisine faisait partie de ma vie, puisqu'elle est complètement impliquée. Mais bien sûr que j'ai une distance un peu différente par rapport à la vie et ce que je peux vivre tous les jours.
C'est une célébration, la cuisine que vous préparez?
Oui, puis la cuisine et puis les cuisines, parce que j'ai développé en plus deux sensibilités différentes, une très méditerranéenne et une très technique et française à Paris, et puis une très campagne. Donc j'avais besoin de me distraire, mais de me distraire sérieusement. C'est pour ça que je suis venu à Paris, mais tout en gardant Monaco, parce que j'avais besoin. J'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de continuer à être curieux, j'ai besoin de faire des choses différentes aussi. Et puis je ferai une cuisine encore différente dans un an, dans deux ans, dans trois ans, parce que en voyageant, je me serai imprégné d'autres courants, d'autres savoirs, d'autres techniques pour venir l'appliquer encore une fois sur des produits provenant de la France.
On a l'impression, lorsqu'on observe votre emploi du temps, que vous arrivez de la même façon qu'avec les légumes ou avec les poissons ou avec les pains même, à métamorphoser, à sublimer le temps. On a l'impression qu'avec votre temps, vous arrivez à faire énormément de choses, beaucoup plus que...
En tout cas, quand il s'agit de légumes, ma recherche, enfin comme tout autre produit, c'est de préserver d'abord la saveur originelle, bien sûr de sublimer, mais d'abord mon premier souci, c'est de préserver la saveur originelle de chaque élément.
Stéphanie Duncan, vous avez faim?
Non, mais ça me donne très envie.
Vous allez avoir faim dans peu de temps.
C'est beaucoup plus intéressant, c'est de la gourmandise.
Ah, vous êtes un gourmet.
Je suis très gourmande.
Ou une petite gourmette. Écoutons votre
grosse gourmande.
Comment la presse, justement, voit ce temps d'Alain Ducasse? Est-ce qu'elle est plutôt... Est-ce que les journalistes, est-ce que les chroniqueurs culinaires, enfin, ceux qui sont les spécialistes sont un petit peu étonnés par cet emploi du temps d'Alain Ducasse qui va d'un restaurant à l'autre?
Je vais vous le dire tout de suite. Ah. Lorsque vous annoncez à Alain Ducasse, il y a un peu plus d'un an, que vous prenez la succession de Joël Robuchon dans son restaurant parisien et que vous continuerez de diriger en même temps le Louis XV à Monaco, les réactions sont nombreuses et mitigées. Et les inspecteurs du Michelin vous attendent au tournant. Alain Ducasse double la mise, titre le Parisien, qui assure que Ducasse Paris ne ressemblera pas à Ducasse Monaco. Dans l'événement du jeudi, Perico Legas est très inquiet pour l'âme de la vraie cuisine française. Alain Ducasse, messie ou démon, demande-t-il. Cet enfant chéri du destin préfère pour l'heure la gloire éphémère du profit médiatique aux vertus essentielles d'un terroir retrouvé. François Simon du Figaro a assisté à l'ouverture du restaurant parisien. Événement, dit-il, digne de l'agitation d'un mariage princier. Il a même essayé de vous suivre dans une de vos folles journées. Épuisant, conclut-il. Luc Levaillant, dans Libération, se demande pourquoi Ducasse se décarcasse. Il vous surnomme Ducasse Rastignac ou encore Ducasse Machiavel. Celui qui était prince de la créativité en principauté se veut roi du goût national à la capitale. Et pour y parvenir, vous passez votre vie dans les airs, donc dans les avions. Vous qui pourtant, comme vous le racontez dans Elle, avez failli en 84 mourir dans un accident d'avion. Vous êtes un homme pressé et cela vous réussit. Dans l'événement du jeudi, le même Perico Legas, si inquiet en juin, est obligé de le constater en octobre. Alain Ducasse, dit-il, refait de Paris la capitale mondiale de la cuisine. en mars 1997, c'est la consécration, avec donc 5 étoiles au guide Michelin, 3 à Paris, mais 2 et non plus 3 à Monaco. Cette dernière décision apparaît Vincent Noce de Libération, plus diplomatique que culinaire. Plus d'un cuisinier, remarque-t-il, voit d'un mauvais œil cette trajectoire fulgurante. Pour Michel Piau du Figaro, il n'y a aucun doute, Alain Ducasse est bien le roi du Michelin 1997. Il faut dire qu'avec Alain Ducasse, écrit Jean-Pierre Quélin dans Le Monde, le Michelin a un client de choix. La tradition n'a rien à craindre et la cuisine évolutive y trouve son compte. On peut faire retentir au-dessus de la capitale un vif et sonore coup de cymbale.
Stéphanie, est-ce que vous avez observé dans la presse aujourd'hui un cornichon, une asperge ou une banane célèbre ?
Eh bien écoutez, j'ai pas vu tout ça, mais j'ai vu des étoiles, beaucoup d'étoiles. Donc pas seulement les étoiles du guide Michelin, pas seulement les étoiles d'Alain Ducasse, mais aussi les étoiles du ciel, tout simplement, qui sont infinies. Parce que ce soir, c'est la 7e nuit des étoiles. Et le Figaro, par exemple, y consacre un supplément en couleur. Libération aussi, il consacre quelques pages. Et il a interviewé Éric Pied-Noël, le créateur, il y a 6 ans, de cette très populaire fête des étoiles. Et savez-vous, Isabelle, quel est son projet fou ?
Non, pas du tout.
Eh bien, qu'une nuit à Paris, on éteigne pendant 1 heure toutes les lumières de la ville pour qu'enfin, les Parisiens puissent observer les étoiles dans le silence et l'obscurité.
Merci Stéphanie.
C'est joli, hein ?
Ouais. C'est génial.
Soit. Que la lumière soit.
Je trouve ça superbe.
C'est beau, ça vous donne des idées ?
Ah oui, ça c'est très bien, ça, c'est une bonne idée.
Vous seriez pas un peu boulimique ?
Si, de tout. Des boulimiques, de tout. Je suis en permanence en train de me retenir quand je mange, tout ce que je fais.
Mais vous avez une petite pensée quand même pour les anorexiques ? Je suis sûre que ça vous intéresse d'ailleurs.
Non,
pas du tout.
Je suis inquiet pour les anorexiques, vraiment. J'ignore tout de l'anorexie.
Mais n'est-il pas
Expliquez-moi.
N'est-il pas intéressant pour un cuisinier d'imaginer ce qui pourrait donner faim ?
Ah, je sais pas. Je pense que c'est vraiment une cause médicale, non ?
Peut-être.
Je sais pas ce qui pourrait donner faim, vraiment. Vraiment, je sais pas. Tout me donne faim.
Ça devrait être
la même chose pour les anorexiques.
Oui, mais ce qui occasionne la terreur, et pas seulement pour les anorexiques, mais aussi pour un bon nombre de femmes qui regardent les journaux tous les jours et qui disent « Oh là là, il faut que j'ai une silhouette comme ci, comme ça », ça devient très très complexe. Et alors du coup, la nourriture devient quelque chose de terrible et la porte du frigidaire, une sorte de porte de prison. Vous y pensez parfois ?
Oui, mais ce qui est rassurant, c'est que les mêmes femmes qui font très attention, qui ont beaucoup de soucis, et qui lisent les magazines, etc., je les vois chez La Durée à 16h sous un frais de gâteau, c'est rassurant.
Je vois que vous les observez alors.
Ah oui, tout à fait, complètement. Mais ce sont les mêmes, je vous rassure.
À propos, parlons du public, puisque c'est le public, finalement, ce sont les gens, comme on dit, qui viennent dans votre restaurant. Il y a 50 couverts, c'est peu d'ailleurs, mais en même temps, c'est beaucoup d'attention.
Oui, beaucoup, énormément. On est l'expression d'un art de vivre à la française, d'un savoir-faire. Et on est là pour concentrer tout ça, que ce soit dans la présentation de la carte des vins, dans la façon de servir. On propose les plus beaux produits avec beaucoup de main-d'œuvre dessus. On pourrait comparer le métier que l'on fait, nous les grands restaurants, à ce qu'est la haute couture par rapport au prêt-à-porter.
Oui, à propos de haute couture, est-ce que c'est vrai que certains de vos serveurs, un expert de l'opéra vient pour leur montrer comment se déplacer ? Vous n'avez pas vu ça dans les journaux ?
Oui, parce qu'on avait les mots.
Non, j'ai pas vu ça. Vous avez dû le voir apparemment.
Oui, ça m'a épaté, c'est vrai.
Tout à fait, quelque part, ça a été. On a une moquette très épaisse à Monaco, et pour se déplacer, c'est vrai qu'il faut. On a fait venir un spécialiste.
On reconnaît un client, c'est-à-dire est-ce qu'on sait lorsqu'on voit entrer un client ou qu'on le connaît un petit peu, enfin ce qu'il va choisir aujourd'hui.
Non, il faut quand même parler un tout petit peu avec lui. J'arrive en moins d'une minute, je sais et je connais la sensibilité d'un client après lui avoir posé quelques questions. Je sais s'il a envie de manger quelque chose de très rustique, de très goûteux, de très raffiné, de très délicat, de plutôt sucré, de plutôt féminin, de plutôt fort, de plutôt très assaisonné, épicé, etc.
Plutôt homard breton avec des asperges vivement sautées, jus de la presse ou
plutôt atlantique, plutôt méditerranéen, plutôt saucier, plutôt viandeux.
Stéphanie Duncan, elle serait plutôt quoi, à votre avis ?
Qui ?
Stéphanie Duncan.
C'est moi.
Légumes, poissons.
Légumes, poissons.
C'est
oui, mais
vrai.
Légumes,
ce que
poissons.
J'aime.
Et comment ? Comment ?
Légumes, poissons.
Ça vous suffit, ça. Stéphanie ?
Non,
moi, j'adore ça.
Oui,
c'est
voilà,
vrai, j'adore ça.
Ouais.
J'ai l'impression qu'on s'amuse beaucoup chez les cuisiniers. Parce que j'ai vu que vous voyez souvent votre ami Freddy Girardet, qui est suisse, qui a un restaurant en Suisse.
Alors... Il s'est retiré il y a quelques semaines. Il vient de se retirer. Voilà, dans ces montagnes.
On a l'impression qu'il y a comme ça une sorte de clan de célébrités dans la cuisine qui arrivent à s'entendre très bien. Bon, c'est le cas avec Joël Robuchon.
Mais au niveau mondial, ce qui est intéressant, c'est que bon, on peut aller à Los Angeles, San Francisco, il y a une confrérie de quelques centaines de cuisiniers. Et on se connaît, en tout cas on se rencontre. Et si on ne se connaît pas, on se rencontre quand on se trouve dans la ville où est ce cuisinier. Mmh. Ça, c'est intéressant.
Mais c'est très rare, dites-moi, dans les grandes équipes sportives ou autres, ça n'arrive pas
Non, mais c'est vrai. On m'a souvent posé la question et il est intéressant de voir cette confrérie assez soudée. Mmh. Et on s'entraide quand on se trouve dans une capitale au bout du monde, on peut téléphoner, on a la certitude d'être aidé.
Vous ne vous mangez pas les uns les autres?
Non.
Alors, hier, il était temps que je mange, hein, parce que ça m'est pénible, hein. C'est des fringales que j'ai. Alors, j'ai des fringales terribles, et là, je tomberai facilement. Je sens vraiment mal, on sent partir, hein. C'est très curieux. C'est curieux et pénible, très pénible. Alors hier, je me suis jeté sur du pain avec du jambon. À 11h, si je mon dîner n'est pas prêt. Je ne mange qu'à midi, midi et demi. Alors, ou alors deux biscottes, ça dépend, ce qui me tombe sous la main, parce qu'il ne faut pas attendre. Ben, j'ai mangé à midi et demi aujourd'hui, quelque chose comme ça. Ben, j'ai déjà faim, il faut que je goûte maintenant.
À 14h30 et quelques miettes, nous écoutions Yann Tiersen et Dominique Petit-Gand. J'ai l'impression, Alain Ducasse, que tous nos auditeurs sont partis manger. Vous leur avez donné faim et nous attendons toujours un appel. La personne la plus célèbre aujourd'hui au 01 45 20 05 50. Je suppose qu'ils sont tous en train de grignoter.
Ou à la plage.
Ou à la plage,
oui. Tellement de monde à la plage, il n'y a personne à Paris.
Je... Mais on peut grignoter à la plage aussi. Et on peut même écouter la radio à la plage.
On gêne les voisins. Ouais. Il y a tellement de monde.
Ah oui, vous savez, maintenant, il y a des postes de radio qu'on peut écouter avec un Walkman. Hein. Cette cuisine française dont vous parlez beaucoup, c'est quoi exactement?
C'est d'abord un savoir-faire. C'est d'abord du professionnalisme. C'est bien sûr des produits issus des plus grandes régions françaises, mais c'est d'abord un savoir-faire. Le talent français, c'est d'abord un savoir-faire. Et je pense que c'est valable aussi dans d'autres métiers comme la couture. C'est d'abord la touche française. Hein, parce que bon, des soies, on sait en faire un peu partout. Des beaux tissus, on en fait en Italie, on en fait partout. Mais le savoir-faire, je pense que la touche française, c'est la caractéristique principale de la cuisine.
Il y a une Ducasse touch.
Enfin, il y a un esprit, oui, bien sûr. Je veux, d'ailleurs, quand je fais une carte ou quand on change de plat, on essaye toujours d'être dans un même esprit, qu'il n'y ait pas de décalage, qu'il y ait une espèce d'osmose entre les plats d'entrée, de boissons, de viande, de légumes, etc. Une espèce de synergie, une espèce de logique. On ne va pas faire dans la carte parisienne, par exemple, je ne vais pas faire homard au curry avec des ananas rôtis et des pommes sauvages. Enfin, ça se verrait comme...
Comme un cheveu,
oui, comme
dans
un cheveu
la soupe,
sur la soupe. Mais vraiment, même plus que ça, ça serait une énormité, quoi. C'est un pavé dans la mare, quoi.
Soupe Campbell.
Allô.
Allô.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes notre auditeur célèbre aujourd'hui.
Ah oui, affamé.
Affamé.
J'ai pas déjeuné, peut-être que j'ai froid, on va faire ma cuisine. Et oui. Il me donne atrocement faim, ce monsieur Ducasse.
Ah, c'est-à-dire que votre cuisine, vous ne pouvez pas l'utiliser en ce moment.
Non, voilà, y a rien.
Qu'est-ce que vous mangez?
Ben, il y a une biscotte, je sais pas, j'attendrai ce soir pour aller manger une pizza.
Une pizza. Oh, Alain Ducasse n'a pas l'air ravi.
Si, moi je mange. Tout,
comment?
Absolument tout, y compris les pizzas.
Y compris les pizzas.
Il y a des bonnes pizzas.
Bien sûr.
Oui, quatre fromages, je recommande. Sans tomates.
Vous êtes célèbre parce que vous ne mangez pas ou vous avez une autre raison d'être célèbre?
Non, je suis un photographe très célèbre que le monde entier ignore.
Oui.
Je voulais vous montrer mes photos à l'antenne.
Oui, bien entendu, nous les regardons avec vous.
Je ne peux pas chanter comme le monsieur de l'autre jour.
Oui.
Mais non, simplement pour vous dire un petit bonjour puis vous dire que c'est bien sympa votre émission.
Non, comment sont vos photos? Comment sont vos photos? Essayez de nous les suggérer. Comme Alain Ducasse le fait avec ses légumes.
Oui, c'est pas facile. Elles sont en noir et blanc déjà. Souvent en format carré.
On voit bien.
Quelquefois rectangulaire, mais souvent carré.
Oui.
Les noirs sont bien noirs, les blancs sont bien blancs.
Oui.
Et puis.
Peut-être vous pourriez peut-être même un peu parler du sujet des photos.
Oh là là, non, parce que je dois avoir 200 000 négatifs. Alors, il y a tous les sujets. Je photographie ce que je vois, ce que je vis. Donc, quand j'ai eu un bébé, il y a un an, un peu plus d'un an, j'ai dû faire 2000 photos du petit,
oui.
Sur la première année, et puis ça a été mon sujet favori pendant une année, mais récemment j'ai fait une exposition, qui a eu un énorme succès d'estime et un succès nul commercialement, mais c'est normal, c'était sur le palais Pitti à Florence avec une exposition art et mode, c'est très beau, mais voilà, ce sont des un artiste photographe ne peut pas décrire ses photos, il faut les montrer.
Eh bien, peut-être si vous photographiez vos repas, peut-être aurez-vous un succès commercial.
C'est un métier pour certains, c'est absolument atroce. Alors, les gens qui font les photographies des fiches cuisine de L, spécialistes là-dedans, ça demande beaucoup de métier pour faire ça.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, monsieur, d'avoir été notre auditeur célèbre pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon appétit.
Vous n'avez pas droit à une invitation chez monsieur Ducasse, non?
Si, on va étudier ça.
Je raccroche pas alors. Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.
Tonight we discuss the phenomenon of hooliganism. Armed gangs of youths have taken to the streets.
Lipstick for everyone.
C'est vrai ça, Alain Ducasse, la façon dont on représente la cuisine. Est-ce que ça vous convient ou vous trouvez que c'est toujours un petit peu trop, je sais pas, trop beau ou trop sophistiqué par rapport à ce que ça devrait être?
Les photos, la cuisine, les photos.
Les photos, par exemple.
J'adore noir et blanc. Mon premier livre, j'ai fait moitié noir et blanc, couleur. Je trouve que le noir et blanc a un talent fou parce que ça laisse toute latitude pour suggérer, effectivement, ou pour deviner les couleurs qu'on aimerait bien attribuer à une pomme. Il y a des moisissures extraordinaires dans mon premier livre parce que j'avais envie d'avoir des poires moisies parce que je trouve que c'est presque plus beau qu'une très belle poire. Quoi. Je suis un fou de noir et blanc.
Est-ce qu'il y a un rapport entre la couleur et le goût? C'est-à-dire qu'il vaut mieux prendre le noir et blanc parce qu'on ne pourra jamais donner la sensation exacte. Il faut le sentir, sinon on ne voit pas.
Ça laisse à l'esprit la liberté d'interpréter la photo en noir et blanc comme on l'entend. Je trouve ça très, très sensuel et très beau, le noir et blanc. Ce qui n'exclut pas qu'on fait de très belles photos couleur, parce que bien sûr que dans les livres, on a la nécessité de mettre aussi de la couleur, parce que ça égaye le livre.
D'autres formes de représentation, c'est en littérature, bien entendu. C'est Casanova, par exemple, qui, dans un chapitre célèbre, avec une de ses maîtresses, Henriette, échangeait lors d'un baiser une huître. Est-ce que ça vous paraît...
Je pense que c'est très beau, oui, effectivement. Je pense que c'est très beau. Ça me paraît fort intéressant.
Fort intéressant ou vous avez pas l'air très convaincu?
Si. Pourquoi pas? Mais il y a plein d'autres choses. Plutôt que d'échanger une huître, j'échangerai plutôt du sucré. Je trouve beaucoup plus sensuel le sucré que l'huître, quand même.
Ah oui. Par exemple? Vous échangeriez quoi? Vous savez, on aime le concret.
Une bouchée au praliné.
C'est bon, ragoût, limace, bon.
Dis-lui que la petite est sur le point de naître.
Que Madame Z y est au courant.
Non, Madame Z.
Que Madame Z y est au courant.
Je ne connais pas son prédateur et pourtant il se camoufle.
Le fake plasticker.
Il partait toujours à deux à la recherche de nourriture.
Welcome to the fantasy.
Ma toutou, c'est une araignée.
King Agent M at all costs.
Ce que je vous propose, c'est d'utiliser notre coffret gourmand, un grand grand top de la boutique.
Que ce simple geste est à l'origine de la disparition de l'espèce qui ne survécut pas à la montée en flèche de la demande.
À l'arrière des cuisses, vraiment à l'arrière des cuisses.
Je t'attends, faut que ce soit là.
Vous présentez, c'est Madame Z.
Et en plus, c'est bon.
Si je reste, je vais mourir.
Le cut-up, je te mange, tu me manges, imaginé par Angélique Thibault. On parle beaucoup de repas à la télé, hein.
Ah oui,
presque
au coup
de ça.
Mais pas assez. En tout cas, pas assez bien. Je trouve qu'on est très léger dans l'audiovisuel français pour parler de cuisine. Je pense qu'on a plein de choses à découvrir au travers de la méconnaissance que les gens ont aujourd'hui de la nourriture, de la façon de se nourrir.
Est-ce que c'est une méconnaissance qui en rejoint d'autres?
Oui, bien sûr, mais quand je vais aux États-Unis et que je vois que les Américains ont aujourd'hui une télévision consacrée uniquement à la nourriture et aux boissons, je trouve qu'on est très en recul par rapport à ce qui se passe là-bas.
Et comment ça se passe quand on fait une émission de télévision? Est-ce que les légumes que l'on célèbre sont les légumes un peu comme Monsieur Tout-le-Monde ou alors c'est un légume un peu parfait qu'on a été chercher je ne sais où
Vous savez, le légume, il faut le goûter, peu importe qu'il soit de culture biologique ou rare, il faut le mijoter, le cuisiner et puis le goûter, puis on saura s'il est bon ou pas bon. Il n'y a pas d'exception.
Mais lorsque à la télé, on fait une émission de télé, on mange ou on mange pas? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est absolument immangeable parce qu'on l'a pas fait dans les bons temps, c'est mangeable.
Les quelques émissions que j'ai faites et préparées, bien sûr, il faut que ce soit mangeable, sinon ça se voit.
Ça se voit.
Oui, enfin, je pense. On peut pas tricher, ça.
C'était bon?
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Vous observez les célébrités de la télévision, par exemple?
Non, j'ai pas le temps. Non, je suis confus, mais j'ai vraiment pas le temps de voir les célébrités à la télévision.
Jamais vous ne...
Rarement.
Donc finalement, le monde tel qu'il vous apparaît, on éteint la télé, après tout, on éteint
la
radio.
Oui, vous éteint la télé. Oui.
On est à la radio.
Moi, j'adore la presse écrite. Je suis un dévoreur et un boulimique de presse écrite. Je lis.
Votre monde n'est-il pas un monde un peu parfait, quand même, Alain Ducasse?
Oh non, certainement pas. En tout cas, j'essaie de poursuivre ce qui me fait plaisir et ce qui me donne, ce qui me permet de m'imprégner de ce que je recherche. Et quand je voyage, je suis très curieux et je suis très curieux de ce qui touche à mon environnement. Être curieux aussi des civilisations, mais certainement aussi parce que je veux regarder comment mangent les gens partout dans le monde. Donc ça, j'essaie en permanence de satisfaire ma curiosité comme ça.
On mange très différemment?
Oh, c'est incroyable. Quand on est sur... le dernier voyage m'a énormément choqué. J'étais au marché chinois de Hong Kong l'année dernière, au mois de décembre, et j'étais ignorant de tout. Mais ignorant de tout, je connaissais exactement pas plus de 5% des produits qui étaient à la vente dans le marché chinois. Donc quand vous rentrez, vous êtes très déprimé. Vous sentez très bête.
Est-ce qu'on mange différemment aussi dans simplement le geste du manger?
Tout est différent. La nourriture, je pense que c'est un reflet de la civilisation. Et quand on voit l'écart qu'il y a entre la civilisation française et la civilisation chinoise, bon, la nourriture a le même décalage.
C'est-à-dire que lorsque vous imaginez, par exemple, pour Monaco et pour Paris et pour la Bastide à Moustier, des plats...
Le même liant, c'est la technique entre Paris, la technique et la technicité et le professionnalisme à la française. Mais les sensibilités sont très différentes puisque... À Monaco, on va être très méditerranéen, on va être très herbes, légumes, poissons. À Paris, on va être très technique, appliqué sur les grands produits français. À Moustier, très campagne. Et les Chinois ont la même variété, mais on est très, très éloigné, que ce soit en termes de technique et en termes de goût, et en termes de consistance, en termes d'odeur, de saveur. On est fondamentalement différents, mais tout ça est très intéressant.
Vous pensez qu'un foie gras frais de canard des Landes, en cocotte luttée aux pommes de terre caramélisées, tête de porc, en salade d'herbes amères truffées, vous pensez qu'en Chine, ce plat, par exemple, pourrait plaire? Et peut-être, est-ce qu'on pourrait le manger de la même façon?
Complètement, parce que c'est une cuisine très subtil. La variété de cuisine chinoise ont une telle diversité que je pense qu'elle est supérieure à la cuisine française. Parce que on a une plus grande variété de produits et une plus grande variété de techniques. On dit souvent c'est la cuisine chinoise, c'est la cuisine française, la cuisine française, la cuisine chinoise. Mais moi j'ai été impressionné, je me suis retrouvé dans ce qui est considéré comme les meilleurs restaurants chinois de Hong Kong. Et c'est vrai que j'ai pris une leçon pendant 4 jours, j'ai pris une leçon de cuisine chinoise et je suis resté sur ma faim et je pense que je me rapprocherai de ces sensibilités car j'ai envie de les découvrir.
Une question qui n'est pas du tout perfide mais qui est vraiment curieuse. Vous vous rendez dans les plus grands restaurants, dans les capitales étrangères ou vous allez aussi dans un boui-boui?
Ah, je vais dans un boui-boui, oui, autour du marché au passant à Tokyo. Je vais manger des anguilles qui étaient vivantes 3 minutes après, qui sont passées sur la grillade avec du thé vert. J'ai envie de découvrir ce que mangent les gens qui traitent de poissons. Donc je suis curieux de tout, j'ai envie de tout. Je mange tout et je ne vais pas seulement dans les grands restaurants, je vais surtout ailleurs que dans les grands restaurants.
Le hasard, nous n'avons pas encore parlé de lui, du hasard en cuisine. Nous avons parlé de la technique, elle est tout à fait primordiale. Et puis il y a la vie.
Non, mais le hasard, on le réduit à sa plus petite expression. Dans notre métier, c'est d'abord ce métier est d'abord régi par une organisation très précise. Le hasard est réduit.
Il serait du côté de l'esthétisme, peut-être, le hasard.
Oui, le hasard, c'est une cocotte de légumes. On ne va pas ranger les carottes, les navets, les petits pois. On va laisser naturellement tomber les légumes dans l'assiette, car la générosité de la nature et la variété et la palette de couleurs que ça représente ne nécessite pas, en plus, qu'on organise géométriquement l'assiette.
Vous qui êtes un professionnel de la bouche, du manger, Alain Ducasse, est-ce qu'on sait finalement ce qui se passe lorsqu'on mange? Est-ce qu'on sait? Secret, non? Ça, c'est énigmatique.
On sait que l'on doit garder un souvenir et avoir un plaisir instantané, immédiat, et qui ne restera après un bon repas que le souvenir. Donc on pratique un art éphémère et nous sommes des marchands de bonheur et de plaisir. Après, ce qui se passe derrière, ça ne m'intéresse pas. Je cherche à graver dans la mémoire des gens qui viennent manger ma cuisine, à graver un souvenir d'un moment passé et de l'instant passé. Et si possible, que les malheurs quotidiens ne pénètrent pas dans le restaurant. On est là pour donner 1 heure, 2 heures ou 3 heures de bonheur aux gens qui viennent manger chez nous.
On parle souvent avec des termes très précis. Il y a un lexique qui est magnifique. Le vôtre, par exemple, la poulette de Bresse, le veau de lait en côte épaisse, légumes de printemps. Et pourtant, ça correspond. Ça correspond jamais exactement à ce qui se passe à l'intérieur de la bouche. C'est-à-dire qu'au début, ça correspond, oui. Mais ensuite, il y a tout un arc-en-ciel de saveurs, ce qui fait qu'on ne sait plus exactement. Et c'est d'ailleurs un plaisir assez troublant où on en est.
Reste le plaisir. C'est pas parce qu'on ne connaît pas la musique, qu'on n'apprécie pas parfaitement la musique, qu'on n'a pas plaisir à l'écouter. C'est pas parce qu'on n'est pas un grand professionnel qu'on n'apprécie pas. Donc c'est pareil pour les clients et les consommateurs.
Vous avez gagné d'une certaine façon lorsque le client sait s'abandonner.
Complètement.
I'm afraid to cut it, you know? Mary usually does the carving, but maybe tonight you'll do it, Henry. All right with you?
Tout le monde rompait les os des petits oiseaux bruns et les mangeait avec les doigts. Comme on le fait toujours par une journée d'été entre amis, dans une pièce agréable, mais la jeune femme découpa un petit morceau de ail, un petit morceau de autre ail. Elle mangeait comme un feuille. Des miettes s'échappaient de sa bouche, ses joues se gonflaient. Son regard étincelait, virevoltait sans trêve entre les assiettes et les tasses.
Tandis que ses mains déchiraient, pour se grignoter, mangea une bouchée de pain, puis elle réclama du café à chèvre.
Elle était juste assez longtemps pour glisser une minuscule bouchée entre les lèvres humides et délicates de son petit terrier Tango, qui restait assis sur ses genoux sans faire un bruit d'un bout à l'autre du repas. Pour une raison profondément cachée, elle ne buvait que pendant le carême. Elle devenait alors turbulente et débordante d'affection, et pour finir larmoyante après le midi avant chaud et bouffé.
Thank you.
Peut-être aurez-vous reconnu dans ce petit spot concocté par Lionel Quentin un petit peu du poulet d'Eraserhead, le film de David Lynch. Oui, il y avait un poulet qui trônait autour de la table et qu'on déchiquetait, c'était une scène d'horreur.
Mais c'est des bruits de la nuit. On entend des bruits de la nuit, là.
Ouais. Mange-t-on différemment le jour et la nuit?
Ah, je pense qu'on mange différemment.
C'est-à-dire?
J'ai envie de manger différemment la nuit. J'ai pas envie de... j'ai pas envie de raffinement, j'ai envie de quelque chose qui va me satisfaire, mais sans avoir besoin de discerner, sans avoir besoin de rechercher un plaisir. C'est simplement une satisfaction de la faim, satisfaire à la faim.
Par exemple, par exemple, ce pain que j'ai vu quelque part, un pain exceptionnel, c'est un pain poivré à la tomate confite, hein, qu'on mange qu'occasionnellement. Et vous rajoutez à marier seulement avec des plats où l'on retrouvera la tomate, ou à déguster seul.
Alors, tout dépend de la qualité de la tomate. Si ce sont de belles tomates hollandaises qui n'ont le goût de rien, on peut travailler autant qu'on veut, on n'aura encore rien. Parce qu'avec rien, on ne sort rien. Ce n'est que la générosité de la nature, le talent des maraîchers, des pêcheurs, des bouchers, enfin tout le talent et la générosité des gens qui nous apportent tout ça que l'on peut faire de la cuisine. Donc avec rien, on fait rien. Donc on n'est que le dernier maillon de la générosité de la nature.
Alors nous avons parlé de renommée, nous avons parlé de célébrité, nous n'avons pas encore parlé d'argent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsqu'il y a du succès, généralement on parle d'argent. Et difficile d'avoir la célébrité sans argent. Oui,
c'est pas ma motivation pour venir, sinon je pense que je ferais autre chose. Si j'avais comme motivation l'argent, on ferait autre chose qu'à... Dans l'artisanat, je ne pense pas qu'on puisse gagner beaucoup d'argent. On peut satisfaire à ses besoins, confortablement, certes, mais ce n'est pas le choix pour faire fortune et pour avoir beaucoup d'argent qu'il faut rechercher. Quand on a souvi une passion, je pense qu'il y a rarement beaucoup d'argent à la clé.
Je dis ça tout simplement parce que, dans la presse, j'ai vu des chiffres qui sont des chiffres qui paraissent mirobolants, et c'est tout à fait normal. Puis pour un grand restaurant, vous dites, un grand restaurant aujourd'hui, c'est comme une équipe de Formule 1. Ça coûte aussi cher, ça va aussi vite.
Mais est-ce qu'on reproche à un orchestre philharmonique d'avoir de nombreux interprètes? Je pense pas. Jamais personne s'est posé la question. Donc, quand on fait de la grande cuisine, on a besoin de beaucoup de bras, et dans ma cuisine, il y a une vingtaine de personnes pour de boulangers, de pâtissiers, de gens qui travaillent le poisson, qui travaillent les légumes, la viande, etc., pour servir 50 clients. Et je pense que c'est l'expression du savoir-faire à la française. Et ma grande inquiétude, c'est qu'en 2005, s'il n'y avait plus des gens qui possèdent les gestes, qui possèdent la technique, et que, si on n'avait plus une espèce végétale pour continuer à faire, par exemple, une soupe de petits pois sucrés extraordinaire en 2005, ça serait beaucoup plus grave.
C'est pour ça que les écoles sont importantes.
Oui, les écoles, enfin, en tout cas l'école de la cuisine, que c'est pas spécialement dans l'éducation nationale qu'on va apprendre le métier, mais en tout cas que l'école reste.
Sur cette notion de Formule 1, quand même, je sais que vous travaillez dans des milieux qu'on imagine assez mal, c'est-à-dire très très modernes. On a toujours une notion du grand restaurant.
Non, ce sont des laboratoires, ce sont des laboratoires presque des laboratoires de recherche où on cherche toujours, on va toujours rechercher à être encore meilleur, à être plus précis. Quand on va cuire un turbo aujourd'hui, on le cuit à 51 degrés à cœur et on en vérifie la température. J'en vérifie la température avec un thermomètre électronique et ainsi on a une parfaite cuisson de turbo dans des turbos de 8 kilos qui ont été pêchés la veille, qui sont arrivés par avion. Donc on est là pour servir la meilleure expression et l'exceptionnel de la cuisine française.
Le théâtre des opérations, c'est un petit peu, par exemple, c'est par fax que le maître d'hôtel prévient certains, c'est vrai ça? Pour des cuissons qui doivent être vraiment à la
mine. Oui, bien sûr, on est relié, tout est informatisé, etc. Mais il y a toujours une relation personnelle entre le chef de cuisine et le maître d'hôtel, qui va donner exactement ce que le client attend. On demande même la cuisson des poissons, est-ce que vous voulez plus cuit, moins cuit? Mais par exemple, pour le turbo, la température, ma température idéale de cuisson, c'est 51-52 degrés. Mais on a maintenant envie de dire au client, est-ce que vous voulez les langoustines un peu plus cuites, un peu moins cuites, ou cuites comme le chef a décidé de la cuire? Donc on va encore plus loin.
Votre fourneau, il est comment, le vôtre?
De
votre intime
à la maison. J'ai presque une collection de fourneaux, puisque j'ai 6 ou 7 mètres de fourneaux qui ne servent strictement à rien, si ce n'est pour cuire à l'eau quelques courgettes arrosées d'un filet d'huile d'olive. Donc vous voyez, il sera dans 20 ans, il ne sera pas fatigué de la cuisine que j'ai fait sur mon fourneau personnel, car je suis pas très souvent chez moi.
Mmh. Oui, la question que je posais, c'était aussi finalement de savoir si vraiment le four traditionnel, par exemple, enfin, vraiment n'existe plus, et si vous pensez que tout ce qui est désormais ultramoderne vaut finalement...
Le four traditionnel existe toujours, et je pense qu'après l'ère de l'électronique, on va revenir à des choses mécaniques où il y aura un bouton et on tournera vers la gauche pour être... et on mettra sur 80 degrés ou 100 degrés, ça sera très... Enfin, après une ère d'extrême sophistication, on est en train de repasser à une ère mécanique, mais c'est très bien comme ça.
Vous êtes aussi pour l'alternance, je crois, des commis, enfin, c'est-à-dire que l'équipe bouge beaucoup.
Former, parce qu'il faut les former, ils sont là pour apprendre, et quand ils auront appris, ils iront porter le savoir qu'on leur a transmis ailleurs, ils seront chefs à Tokyo... À Phoenix, à San Francisco, à New York, et ainsi la cuisine en général et la s'améliorera aussi bien à Tokyo qu'à San Francisco parce qu'on aura formé des gens et ces gens-là auront envie d'acheter des produits français. Je pense que ça participe aussi au développement de l'économie à l'international, la cuisine.
Alors pour que nous comprenions bien, hein, sans parler peut-être de façon trop abstraite, lorsqu'on dit il se passe toujours quelque chose au fourneau, chez Alain Ducasse, est-ce que ça veut dire qu'avec ces moyens ultra perfectionnés, aujourd'hui vous avez encore la possibilité d'avoir une inventivité et une créativité, deux talents qu'on vous reconnaît largement, sur le moment ou alors c'est vraiment pas possible et il faut y penser un petit peu avant?
Non. On y pense un petit peu avant pour être parfaitement réglé, cadré. Il n'y a pas d'improvisation comme ça au dernier moment, si ce n'est pour un plaisir personnel ou pour un ami. Mais l'évolution de la cuisine est quotidienne et la cuisine que l'on fera dans 2 ans à Paris ou à Monaco n'est pas la même que celle qu'on fait aujourd'hui. La seule constante, ça sera une encore plus grande précision technique avec l'aide éventuellement de machines ou de fours ou de poêles très différentes, mais on va toujours essayer d'amener une évolution, mais ça permet aussi de faire évoluer le plat terminé. La cuisine sera différente en 2005 que celle que je sers aujourd'hui, bien évidemment. Je ne sais pas dans quel sens, mais ça sera certainement le plus grand thème qui va venir s'imprimer sur ma cuisine pour qu'elle évolue. Je pense que ça sera les raccourcis de cuisson. C'est l'inspiration de... L'inspiration chinoise, c'est entre le produit vivant et le produit consommé, entre le produit cru et le produit cuit, il s'écoule souvent que quelques minutes. Et je pense que la plus grande influence qui va intervenir sur la cuisine que je fais aujourd'hui, ça sera cette influence-là.
Vous ne parlez pas du micro-ondes quand même?
Non, certainement pas. Non, mais c'est,
on pourrait vous entendre comme ça.
Je pense que le wok a un grand avenir dans les cuisines en général.
Donc pas de cuisine unique? Comme il y a une pensée unique.
Non, certainement pas. Non, c'est très, très, très large. Et vous savez, la cuisine est une expression de société. Et la France est l'expression de la démocratie. Donc, les cuisiniers français, le talent de la cuisine française, c'est la diversité des cuisiniers qui font la cuisine française. Et la cuisine française, c'est des touches. Et des touches, elles sont différentes. Entre les coutumiers, elles sont différentes. Entre les cuisiniers, elles sont différentes. Et chacun s'exprime. Et chacun défend l'esprit qu'il transmet dans sa cuisine. Donc des fois, il y a des couacs. C'est comme partout, c'est comme en politique. Ou c'est comme dans votre domaine.
Vous êtes pour la démocratie, vous m'avez dit. C'est pour ça que vous êtes pour la cuisine.
Large, la démocratie, oui, bien sûr. Mais la cuisine, c'est l'expression d'une démocratie. Oui. Et quand on s'exprime sur la cuisine, on a le droit de dire ce qu'on veut.
J'ai lu quelque part un chroniqueur qui disait, finalement, Alain Ducasse, un coup, il est pour le beurre, un coup, il est pour l'huile. Et c'était comme si...
Je suis pour l'huile d'olive. Quand je prends l'avion, après, je suis davantage pour le beurre, puisque je me rapproche à la Normandie. C'est logique. Ouais, c'est une question géographique.
Ouais. Il y a donc une orthodoxie quand même, une partie de la profession, en tout cas du côté des chroniqueurs, oui.
Si aujourd'hui je devais me satisfaire de ne faire que de la cuisine méditerranéenne, non pas que j'ai tout abordé au bord de la Méditerranée, mais j'avais envie de faire de la cuisine typiquement française, appliquée avec les meilleurs produits, et faire quelque chose de prendre la cuisine classique française et l'amener au goût du jour. C'est-à-dire les sauces qu'on fait aujourd'hui à Paris sont infiniment moins riches que les sauces qu'on pouvait faire dans la grande cuisine française dans les années 70, 75. On a épuré, on a dépouillé et on ne conserve que l'essentiel de ce qui est intéressant dans un plat. Aujourd'hui, quand on va faire bientôt du chevreuil, on va garder l'essentiel, le meilleur, le plus beau. Et c'est ça qu'on doit présenter au public international et aux qui viennent pour l'expérience et pour, si possible, avoir une grande expérience de ce qu'est la grande cuisine française. Voilà le rôle des grands cuisiniers aujourd'hui.
Et pour demain, pour les temps à venir.
Bien sûr.
Il est déjà 14h58, pratiquement, heureusement d'ailleurs, parce que j'ai de plus en plus faim. Homme ventripotent avec casquette vissée sur la tête, ses choux farcis. Extravagante adolescente, blonde avec une allure autoritaire, elle s'appelle de Koningin, ses soupes au pistou. 6 feuilles de basilic. Dame anglaise au long collier d'étalant sur le buste, lèvres vermeilles, droite comme un roseau, ses sautées de veau au huit parfums. 800 grammes de carré de veau dégraissé, un sachet de soupe à l'oignon, 5 grammes de cumin. Chasseur retraité, au loden vert et au chapeau assorti, c'est bœuf bourguignon au Malaga. Alors 1,2 kg de morceaux de bourguignon dans le gîte, 1 kg de carottes, 1 litre de bouillon de bœuf, un bouquet garni et 100 g de Malaga. Alain Ducasse, vous êtes d'accord avec ces quelques associations de
sauf
goût et
la
personne...
jeune adolescente qui
Oui, une jeune adolescente avec des gestes un peu autoritaires, oui, mais c'est parce qu'on non, la connaît.
Ça,
et c'est...
Ah d'accord,
oui.
Ça
elle a des goûts un petit peu curieux.
Non, ça va pas.
Pour aujourd'hui, ce sera coupe, café, chocolat, fruits rouges, feuillets caramélisés, crème mousseline ou plutôt noisette au Piémont, à votre avis? Qu'est-ce qui irait le mieux vu le temps qu'il fait?
Noisette du Piémont, ouais. Uniquement les noisettes du Piémont caramélisées, j'ai envie de ça, avec une glace au caramel.
Moi aussi, j'ai de plus en plus faim et Lionel Quentin est déjà parti manger. C'est la fin pour les Feux de la Rampe. Angélique Thibault, Marie Groux, Thierry Chaise, Claude Courteau, Stéphanie Duncan, Archivina, Emmanuel Join. Réalisation Lionel Quentin. Au revoir à tous et à lundi avec Philippe Torreton, comédien.
Le cornichon, sa saison est courte. Pour les conserves, veillez à les choisir de même taille pour une unité de saveur. À l'achat, ils doivent être fermes, fins et légèrement épineux.
Merci Isabelle Rabineau.
C'était un numéro des Feux de la Rampe avec Alain Ducasse au micro d'Isabelle Rabineau, diffusé pour la première fois le 8 août 1997.
C'était une mise en bouche de « À la table des grands chefs », un programme d'archives que nous vous invitons à écouter samedi prochain à partir de minuit. Des grands chefs nous ouvriront leurs portes. Alain Passard, Guy Savoie, Paul Bocuse, Joël Robuchon, Bernard Loiseau. Au programme « Goût, saveur, arôme, texture ». Et d'ici là, cette nuit et toutes les nuits dès minuit sur France Culture, nous vous proposons une sélection d'archives. Des archives à télécharger et réécouter à volonté sur le site et sur l'application Radio France à la page des nuits. Les nuits, le jour, l'équipe des nuits vous souhaite une excellente fin de journée à l'écoute de France Culture.